Donc, je vais procéder, à partir de maintenant, à quatre types de dépossession du peuple en matière de pouvoir. Quatre types de dépossession qui ne sont pas, encore une fois, un projet, qui ne sont pas du tout un truc machiavélique, pensé par je ne sais quel machiavélisme de tous les partis, la droite, la gauche, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont des mécanismes. Ce sont des mécanismes qui réagissent à des situations. Le premier mécanisme, c'est le fait que dans les démocraties que nous connaissons, nous n'avons pas, effectivement, le pouvoir du peuple sur sa destinée. On va dire, il y a des représentants. Ah oui, d'accord. Un représentant, c'est quand même pas moi, non ? Et c'est ça, justement, c'est le problème de la distance entre le vouloir et le pouvoir, c'est-à-dire entre le représentant et le peuple, qui justement est en jeu. Donc, la représentation, il faudrait l'examiner de plus près. Et puis, puisqu'on y est, que ça me revient à l'esprit, dans ces pays où nous sommes, disons, des démocrates, où on afflige tous les autres pays en leur disant « Vous n'êtes pas démocrates, regardez-nous, on est des vraies démocraties, liberté d'expression, liberté de penser, liberté d'acheter des chaussures moins chères, liberté de tout. » Non, dans notre pays, on se lève le matin, on va à 8 heures dans une entreprise où il n'y a aucune forme de démocratie, où la règle est complètement féodale, le pouvoir est hérité par l'argent, par la puissance, qui n'a rien à voir avec le vote, avec les soviets dont on était en train de parler tout à l'heure, et il reste jusqu'à 10 heures du soir, sauf l'intermède de la machine à café, et peut-être la cantine à midi. Sinon, le reste du temps est occupé par une vie féodale, purement féodale, totalement pyramidale, verticale, dans laquelle la démocratie n'existe absolument pas. Donc la démocratie, si vous me permettez, elle existe le samedi, le dimanche, et après 19h. C'est ça, mais ne me racontez pas notre histoire, parce que sinon il va falloir me prouver qu'on est démocrate à l'entreprise. Et ça, j'aimerais voir comment ça se passe, ou au bureau, ou dans les fermes. J'aimerais voir comment ça se passe, la démocratie là-dedans. Voilà, donc ça pour vous dire que c'est déjà quand même assez chatoyant le paysage. Mais c'est pas tout. Pour ce qui reste de démocratie, ce n'est pas une démocratie, donc une présence du peuple devant ses propres affaires qu'il s'agit, c'est ce qu'on appelle une oligarchie. Qu'est-ce que c'est une oligarchie ? En grec, littéralement, ça veut dire le gouvernement d'un petit nombre, du petit nombre. Cette oligarchie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ben, c'est une oligarchie qui est devenue spécialiste de la rhétorique politique, spécialiste du maniement, de la circulation dans les partis, circulation de la vie, spécialiste de la vie des partis, spécialiste de la vie des associations, bref, spécialiste du pouvoir. Elle est donc spécialiste du pouvoir, et si elle n'était pas spécialiste du pouvoir, on la chasserait quand elle se présentait aux élections, sauf apparaître pour complètement insolite, un exotisme incroyable, des gens comme, pour les plus vieux d'entre vous qui ont mon âge, je ne sais pas si vous vous souvenez, Barbu. Barbu, c'est un candidat du temps de Gaulle. On riait quand on le voyait, à ce temps, on partait de rire. C'était un type qui vivait dans une roulotte et s'était présenté à la présidentielle, et on s'amusait. Barbu, il s'appelait. Incroyable. Il y en avait des comme ça qui se présentaient. Aux États-Unis, contre Trump, il y a aussi. Comment s'appelle-t-il déjà Ah, ça me reviendra tout à l'heure. Il est très très drôle, c'est un musicien de rock. Bon, j'ai oublié. Et. Comment Alice Cooper, exactement, c'est Alice Cooper. Il est drôle dans ce qu'il dit. De toute façon, avec moi, ça sera pire. Mais au moins, c'est promis. Alors que les autres, ils le font même pas exprès. C'est Alice Cooper, une personnalité merveilleuse du rock'n'roll. Bon, ça pour vous dire donc, premier truc, qu'est-ce que c'est que l'oligarchie ? Ben, c'est une spécialisation du pouvoir, une professionnalisation du pouvoir, et comme toute professionnalisation du pouvoir, évidemment, quand elle est au pouvoir, son rôle, c'est pas de couper la branche sur laquelle elle est assise, vous comprenez bien quand même, pas la peine d'en faire une question de morale. Quand vous avez une position que vous avez toujours enviée depuis l'âge de 10 ans dans l'école, en passant par l'université, qu'enfin vous êtes... Vous avez fait tous les trucs, vous avez avalé des couleurs, vous avez des chapeaux, tout un tas de trucs. Vous arrivez à être élu, en plus. Puis petit à petit, à des crans supérieurs, et vous arrivez jusqu'à l'État, vous imaginez si vous allez renoncer à ce bazar sous prétexte que vous n'êtes pas un vrai démocrate. Rien à foutre. Donc bon, c'est un peu normal, et c'est pas, ça existe depuis l'Antiquité, je veux dire. C'est pas. Mais nous, on vit dans une oligarchie, c'est pas la peine de se verser d'illusions, on vit pas dans une démocratie. Et en plus, on ne vit pas, on vit à partir de 7h du soir dans une oligarchie, et le week-end, et le reste du temps dans une féodalité. Donc, à part ça, tout va bien. Mais sinon, la question du peuple et de son vouloir se pose déjà en ces premiers termes. Alors, donc, peut-être... Oui, oui, ça va vite. Hein. Ouh là là, oh. Alors, cette question, donc, elle est appuyée à une autre. Que dit l'oligarchie technique du pouvoir. J'insiste parce que ça peut être ce qui vient juste après. L'oligarchie technique du pouvoir dit « c'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus complexe ». Ah, fin du vocabulaire. Elle dit « c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça ». Ce qui sous-entend, c'est pas un abruti comme toi qui va me faire comprendre de quoi il s'agit. Il faudra avoir fait un peu d'école, peut-être, ou en tout cas, si pas l'ENA ou Sciences Po, peut-être quand même un peu avoir été élu partout, peut-être avoir fréquenté des appareils, parce que là, tu dis des conneries. Là. Tu dis, mais c'est peut-être plus complexe, mais quand même, moi, il me semble que. Alors, vous voyez que c'est contre ça que Trump vient de se faire élire. Il faut faire gaffe à ce truc-là, c'est totalement explosif. L'arnaque, c'est beaucoup plus complexe que ça, a fait qu'aux États-Unis, on a un guignol maintenant en face, et méchant en plus, et sans doute imprévisible, et totalement, sinon fou, en tout cas, extravagant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais parce que l'essentiel de ces campagnes s'est fait contre l'establishment, contre le vocabulaire des techniciens, contre le vocabulaire des médias, et surtout contre le vocabulaire des spécialistes du pouvoir. Parce que ça marche à tout berzingue, ça. Si vous allez dire au peuple, vous voyez pas, c'est les spécialistes qui vous ont confisqué le pouvoir et se foutent de vous, vous faites du score, hein, ça, il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce que vous faites ? C'est une autre affaire. Mais là, vous faites du score. Donc ça, c'est important de le savoir et de voir où en est ce malaise. Ce malaise, il vient que, aussi, du fait que la complexité, ou ce qu'on appelle la complexité, est toujours, cache quelque chose de relativement inavouable. Moi, je veux bien que le monde soit complexe, aujourd'hui. Je veux bien. Mais alors, il faudra m'expliquer pourquoi George Bush, qui est un sinistre abruti, qui prétendait aux médias avoir pas lu plus de 4 livres dans sa vie et n'avoir regardé que des séries B, a dirigé la première puissance mondiale. Ça, il faut m'expliquer, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Je lis encore à mon âge. J'écris même. Et je serais incapable de diriger les États-Unis parce que ça me semble complexe, comme ils disent. Et donc, il y a un miracle. Peut-être qu'il était inspiré par la Vierge ou je ne sais quoi, par les anges. Ou par Alice Cooper, qui sait. On ne sait pas. Mais enfin, une explication manque. Alors, peut-être, il faudrait m'expliquer pourquoi aussi n'importe quel mafieux sorti de Catane, en Sicile, est capable de placer son fric aux États-Unis, dans le nord de l'Italie, ou même en Ukraine, et d'en tirer des bénéfices absolument colossaux, ce que je ne sais pas faire non plus. Mais lui, il a l'intelligence, il a la formation intellectuelle d'un garagiste, et sans doute une intelligence largement supérieure à la mienne, parce que, vous voyez, la complexité, il n'en a rien à faire. Il est déjà dans les entreprises multinationales. Donc c'est quoi cette complexité ? Ben, c'est intéressant parce que je vais vous dire à quoi elle ressemble. La complexité, ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle la complexité, c'est tout simplement le fait que le monde n'est plus lisible sous la forme ni d'une volonté ni d'une logique. Si vous lisez le monde sous la forme d'une volonté, alors c'est soit le monde stalinien ou le monde nazi ou le monde libéral ou le monde patin-couffin, mais vous pouvez dire tout cela résulte d'une même logique et s'interprète. La lutte des classes, par exemple, chez Marx, permettait de comprendre une logique du devenir qui permettait d'interpréter les événements. Si ceci a eu lieu, ce n'est pas parce que ce que vous croyez, mais c'est parce que derrière, ça fait bouger tel et tel type de rapport de force. Et là, on pouvait lire. C'était difficile, mais des prolétaires apprenaient le marxisme et comprenaient très vite cette chose-là. Ils ne lisaient pas là, ils ne parlaient pas de complexité. Ils parlaient plutôt des apparences, de comment l'idéologie masquait les choses. Donc la complexité, c'est le fait que le monde n'obéit plus à une seule logique. Pourquoi ? Eh bien parce que la libéralisation, le marché libéral, l'économie mondiale, qui est une économie de type libéral, et à qui il a laissé le plein pouvoir sur la planète, est constituée de la confrontation et de la concurrence de logiques diverses, et même parfois totalement antagoniques, et même parfois totalement ennemies. Ce qui fait que le réel dans lequel auquel nous avons affaire, est un réel qui n'est pas le produit d'une logique, mais le produit d'un chaos. Alors de ce point de vue-là, oui, oui, bien sûr, c'est complexe. Non, c'est chaotique. Et on peut même dire que c'est chaotique, et il y a des raisons à ça. Il y a des raisons à ça. Sinon, oui, je parlais de George Bush tout à l'heure, mais bon. Sinon, à quoi nous amène ça ? Eh bien, ça nous amène à peut-être cette deuxième dépossession, qui est la pensée technique qui s'est installée à la place de la pensée politique. Qu'est-ce que la pensée technique ? C'est difficile parce que ça, c'est déjà difficile entre philosophes, la question de la pensée technique. Mais je vais essayer de la rendre un peu claire, quitte à être évidemment falsificateur. Hein. Bon, si je ne vous demande pas de me l'accorder, je le ferai quand même. Mais c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose, comment dire ? ce qui représente à peu près qu'est-ce que c'est que descendre de vélo pour se regarder pédaler. Vous voyez de quoi je parle. C'est ça que je vais vous proposer, donc on y va. Si la pensée technique a supplanté la pensée politique, ça veut dire qu'elle résout ou qu'elle regarde le monde en termes techniques, qu'elle regarde les situations en termes techniques et non plus en termes de finalité humaine. Ça veut dire qu'elle regarde ce qui se passe sous forme de problèmes techniques et de disposition, de disponibilité, de réponses techniques à ces problèmes techniques. Jusque-là, on pourrait dire, bon, écoutez, c'est bien comme ça, non ? Si c'est plus facile, allons-y. Le malheur, c'est que ce n'est pas plus facile. C'est simplement un changement complet de regard que nous portons sur le monde. Alors après, on peut se désoler sur, mon Dieu, nous avons massacré la planète, mon con est méchant. Oh, mon Dieu, le fond de la Méditerranée, c'est un égout. Oh là 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 là, même les pôles, il y a des plastiques qui nagent là-bas près des pôles, mais on est vraiment des ordures, des salauds et tout. Alors ça, la culpabilité, le vieux refrain de la flagellation, on est une espèce mauvaise, on est vraiment méchant et tout. Ça cache toujours quelque chose, toujours. Ça cache simplement le fait qu'on n'a pas réussi à faire le saut en dehors de cette fameuse pensée technique. Qu'est-ce que c'est ce saut ? Je vais essayer de vous dire un peu comment la technique, ce n'est pas des instruments que nous avons autour de nous, un micro, un enregistreur, de l'eau, un verre pour mettre l'eau. Ce n'est pas ça la technique. Ce n'est pas seulement ça. C'est un mode de pensée, c'est-à-dire un système. C'est le moment où, par exemple, lorsque je regarde le soleil, je ne dis pas « tiens, c'est un dieu vivant ou pas vivant, c'est un mystère, c'est un miracle, c'est une chose étrange », mais non, c'est une boule qui consomme du carbone de telle façon, etc., etc., et que je le regarde sous la forme d'une rationalité scientifique. Et cette rationalité donne au soleil donc une présence pour moi qui est celle qu'on peut connaître. C'est-à-dire, donc, il brûle du carbone comme ci, comme ça, et puis il brûle de l'oxygène. Puis bon, voilà, il irradie, c'est une force de radiation de telle et telle puissance. Basta. Ah, une force de radiation, ben alors c'est relativement simple. Si c'est une boule de radiation, ben, il y en a partout. Même, quand, vous savez, quand on va se faire soigner aussi. Il y a des... Et voilà ce qui se passe. On fait tout de suite une sorte de regard sur le monde. On dira, par exemple, ça sert à... Voilà. Le soleil réchauffe la Terre. L'oxygène et l'hydrogène servent à faire de l'eau. L'eau sert à la vie. La vie sert à rien, tout le monde le sait. Alors, on ne parle plus de la vie. On continue à voir comment tout ça, techniquement, on peut intervenir dessus. C'est la première chose de la pensée technique. C'est une pensée qui suppose l'intervention sur le monde extérieur à nous. Le monde devient un environnement et il n'est plus une partie de nous. Nous ne sommes pas une partie du monde, une petite partie. Il est notre environnement et nous sommes au centre. Et vous remarquez que c'est la même chose d'ailleurs pour la pensée écologiste qui ne pense pas autrement que ça, qui pense simplement qu'il faut soigner l'environnement. Il n'en faut plus en finir avec cette notion de nous et l'environnement. Il faut le soigner. Il faut le soigner parce que les ressources du monde sont en danger. Mais le monde n'est... C'est ça la pensée technique, le monde n'est pas une ressource. La pensée technique nous a amené à penser que le monde est devenu un stock de ressources devant nous et qu'il est un stock de réponses et un stock de problèmes. Alors, au problème qu'il pose, on cherche la réponse, un peu comme avec des Legos, un peu comme avec un jeu. Un des théoriciens de la recherche sur la pensée technique, un philosophe, a écrit ceci que je trouve très bien être simple. La pensée technicienne est incapable de penser la technique. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, nous sommes sur le vélo, donc on n'arrive pas à voir comment on pédale. Mais parce qu'on est tous imbibés par la pensée technique aujourd'hui, on pense qu'il doit bien y avoir une solution au chômage, par exemple. Je vous dirai tout à l'heure que non, il y a mieux que ça, qu'une solution au chômage. La solution au chômage, on la cherche de manière technique. Ça fait maintenant quand même 40 ans qu'on la cherche, et on ne la trouvera pas, parce qu'il n'y a pas de solution technique pour revenir à l'emploi des années 50 et surtout au capitalisme du 19e siècle avec 3000 prolos qui sortent des usines lumières qui sont filmées par les deux frangins. C'est fini, ça. L'idée qu'il y a une solution technique et que le chômage est un problème technique sont des monstruosités qui n'effleurent plus personne. Et le fait que ça n'effleure plus personne, c'est ce que dit donc Jacques Ellul dans un livre qui s'appelait « Le bluff technologique » de 88. La pensée technicienne est incapable de penser la technique. La pensée technique ne pense jamais que dans le sens des progrès techniques. C'est ça. Elle ne pense toujours que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Comment on va améliorer ce qui existe ? Et non pas changer totalement de direction, revoir complètement les plans, peut-être abandonner le véhicule. Non. On améliore, et on prend toujours la matrice et on continue. Parce que la matrice, elle a des pannes. Si elle a des pannes, c'est un problème technique, il y a donc une solution technique. C'est ça le problème, comme ça qu'on pose le problème de sociétaux aujourd'hui. Je continue. La pensée technicienne est incapable de prévoir du nouveau. Il s'agit toujours de prolongement et de perfectionnement de ce qui existe, que j'étais en train de dire. Alors, la question de fond pour nous, c'est comment sortir de la pensée technique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se servir de la technique. Mais pour s'en servir, il faut d'abord avoir repris la maîtrise sur une pensée qui nous dévore de fond en comble et qui nous fait voir effectivement le monde comme un jeu de l'ego, alors que nous y perdons une autre représentation du monde qui était celle qui organisait le politique. C'est-à-dire un monde où, modestement, nous pouvions nous tirer une finalité humaine à ce que nous faisions. Et pas au monde. Il ne s'agit pas de rendre le monde humain. Il ne s'agit pas de penser que les animaux parlent comme nous, qu'ils ont des droits comme nous, qu'ils devraient voter demain et peut-être même décider de notre propre destin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir que l'humanité, est-ce qu'elle est capable de se donner une finalité humaine à ses pratiques et à ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle est capable de dire on ne peut pas accepter que 100 personnes se foutent par la fenêtre d'une entreprise de télécommunication plutôt que d'aller gifler leur patron parce qu'ils foutent leur vie en l'air, ils vont mourir, tout ça parce qu'on les traite comme des moutons. Et qu'on ne peut plus faire autrement parce qu'il n'y a plus que des questions techniques avec des réponses techniques. Et que donc on dit si on ne délocalise pas, eh ben la boîte va comme Besançon. Puis c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc ça peut être changé contre une autre solution technique. Mais malheureusement, la question, si on reprend Besançon avec Alstom par exemple, c'est qu'il ne s'agit pas de dire comment organiser la production de trains pour que ce soit des êtres humains qui les utilisent et des êtres humains qui profitent de ce travail-là. Et comment ils vont se répartir ce bazar et comment, non pas ils vont voler les profits, mais comment ils vont répartir le plus équitablement possible le travail fourni, les compétences et le travail sur les finalités. Parce que là, ils pourront se délocaliser peut-être. Peut-être d'autres pourront venir là aussi. Ça change totalement la perception du problème. Mais si on part du principe que sortir les gens de l'entreprise et les foutre ailleurs, c'est un problème technique, il faut trouver une solution technique, excusez-moi, mais c'est comme avec la jungle de Calais, où on trouve un problème technique, tout un tas de gens rassemblés, une solution technique, tout un tas de gens éparpillés en petits groupes. Toujours un problème technique avec une réponse technique. La question humaine n'est pas du tout là. Et la question humaine, si on se la posait, on trouverait peut-être d'autres réponses que des réponses que l'on trouve en se posant des questions techniques. Donc, la technique, ce que j'en disais, c'est un petit peu la confiscation du pouvoir possible que l'on a si on ne raisonne plus en termes d'expertise, en termes donc de connaisseurs et en termes de techniciens. C'est-à-dire, évidemment, on dit, on ne va pas quand même faire venir, vous comprenez le plombier pour décider de si on fait ou pas une usine atomique. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est que cette idée que ce seraient des compétences qui décideraient et pas ceux qui sont les dépositaires des finalités ? Et qu'est-ce que c'est que cette idée que cela ne pourrait pas être instruit, justement, de tout, plutôt que de regarder les jeux de 20 heures, régulièrement d'ailleurs tournés vers la mise en ridicule des candidats, la mise en ridicule des gens qui s'y présentent, qu'au contraire, il y ait, des espèces de débats, de choses comme ça, où les gens essayent quand même de se cultiver un peu sur les conditions de leur vie. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils demandent. Ils vont demander. Agissez à notre place. Empêchez ceci, empêchez cela. Et les autres, ils empêchent que dalle. On sait, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi. Donc, là aussi, c'est un cercle vicieux, avec le cercle technique. Troisième dépossession, en accélérant, la domestication et la production du désir. Ah, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire tout ça ? Eh bien, c'est d'abord que la domination excentrique et absolument totale du système de production-consommation, c'est-à-dire où l'autonomie des individus est absolument absente quant à leurs ressources ou à l'usage des ressources qu'ils font, par quelques-uns qui ont des poireaux dans leur jardin et d'autres une poule avec un canard peut-être, mais le reste, c'est donc là la dépendance absolue à une société de consommation. Cette société de consommation, elle ne se contente pas évidemment des besoins, de savoir est-ce que vous avez besoin de soupe, etc. Elle produit, comme vous le savez, en surnombre, en surabondance. Elle donne cette impression d'abondance, qui est une impression vertigineuse, dans laquelle tout le monde se noie un peu. Et dans cette impression d'abondance, eh ben, il faut mettre quoi ? Il faut mettre du désir, parce que si vous arrivez à produire tous les jours des objets différents et qu'il faut les vendre, parce qu'il faut réaliser du bénéfice, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui les achète. Et pour qu'ils les achètent, il faut bien qu'il y ait un peu de désir. Et comme ils n'en ont pas nécessairement le désir, il va falloir quand même produire ce désir. Donc la production du désir est peut-être la première production des sociétés marchandes. Parce que l'ancien désir du genre oh, « Mon Dieu, j'aimerais bien m'acheter une lampe de chevet », ça c'est il y a longtemps, c'était l'après-guerre en France. Aujourd'hui, c'est « J'aimerais bien changer ceci ou changer cela ». Pourquoi ? Parce que c'est déjà déclassé. Et puis parce que ça vaut rien, parce qu'on le retrouve dans la ville de Grenier, où on l'a acheté d'ailleurs, et on va en racheter, etc., etc. Donc il y a un cycle où, dans la marchandise, quelque chose se dévalue aussitôt pour être remplacé par autre chose. Et c'est ça, la production du désir, c'est la dévaluation de la satisfaction précédente. Donc on vit dans un régime à la fois de production du désir, je veux ça, je voudrais ceci, etc., donc c'est une sorte de, comme Guy Debord appelait ça, le miracle de la marchandise, c'est-à-dire, mon Dieu, comment est-il possible qu'il y en ait tant, et si belle, et partout, il ne me reste plus qu'à les acheter. Mais il y a des crédits pour ça, etc., etc. Allez-y. Alors, on achète, mais c'est très décevant d'acheter, comprenez, c'est comme la sexualité, tout ça, il faut quand même que ça se rythme, ça ne peut pas être une débauche permanente et subventionnée, parce que sinon, tout le monde s'ennuie. Vous voyez l'affaire. Et donc tout le monde s'ennuie dans la société marchande parce que le désir n'arrive plus du tout à excéder la consommation. La consommation excède le désir. Alors on consomme comme des espèces de malades. D'une phrase un peu courte, j'aurais tendance à vous dire la société marchande n'a pas tué le désir, elle l'a rendu souffrant et domestique. Elle en a fait une sorte d'animal domestique, une vache, un truc, comme ça, pour le lait, et qui lui sert. Qui lui sert. Mais il est malade, il est souffrant, il a mauvaise mine. Donc le désir aujourd'hui, c'est peut-être moins aussi frais que du temps de Deleuze et Guattari. Enfin, ça, pour aller un peu vite, pour ceux qui comprennent quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cet hédonisme consumériste dont on parle ? Moi, le premier. L'hédonisme consumériste, ça suppose que donc, voilà, le schéma global des sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est celui de la joie pour tous, si possible. Hein ? Le bonheur un peu enfantin des objets de consommation. Vivre en étant insouciant. No comment sur les discours officiels qui ont été tenus à la suite du 13 novembre de l'année dernière. Si vous voulez, on y reviendra après. Mais là, j'ai entendu quand même un membre du MEDEF dire que le rôle aujourd'hui des consommateurs, le rôle civique devant le djihad, c'était d'aller vite consommer dans les grands magasins, et montrer qu'on n'avait pas peur, que notre civisme, notre civilisation, c'était celle de la consommation et du bonheur. Il fallait l'entendre, celle-là. Je l'ai noté, vous savez, je note ces choses. Mais pas que lui, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'est mis, protégeons les gentils consommateurs qui sont quand même tellement jolis, gentils, et qui dansaient tranquillement dans le Bataclan, et maintenant, voilà, qui buvaient tranquillement dans les trucs, et protégeons-les. Il faut plus de police, il faut un état d'exception, il faut un mur peut-être aussi. Il faut tout ce qu'il faut. Parce que le pouvoir a changé. Le pouvoir, c'est la protection des innocents qui sont des consommateurs, qui consomment tant qu'ils peuvent. Ils font tout leur boulot de consommateurs. Mais il faut les protéger. Il ne faut pas les laisser massacrer comme ça. Surtout qu'ils sont innocents, en plus. Ils ne sont pas méchants, ceux-là. Ce qui est vrai, hein. Tout ça, je fais simplement que caricaturer pour qu'on voit où on en est. Alors ceux-là, on lit, par exemple, le fameux destinataire de la consommation, on le lit dans ses formules extraordinaires, envie de douceur, envie d'un crédit, envie d'un plan d'épargne, envie d'une semaine de vacances. On leur parle comme au bébé. C'est-à-dire qu'on a, il a envie de ça, il a changé la couche. Ah, changer la couche, ah, il est gentil. Vous rendez compte qu'on parle à un peuple prétendu démocratique et maître de son destin comme à des attardés mentaux. Et qu'il aime ça, ce peuple. Nom de Dieu. Il aime ça, sinon il irait arracher les panneaux. Il irait, ne prenez pas pour des imbéciles quand même. je ne sais pas, quand je me rappelle les années 70, où j'étais quand même un jeune homme, jamais on aurait vu apparaître une telle bêtise sans, mais je ne sais pas, se disputer l'échelle pour aller vite écrire quelque chose là-dessus. On n'aurait pas laissé, monsieur, comme il s'appelle. Bon, le mieux, c'est le roi Merlin, il y en a une galerie entière, mais bon, il n'y a pas que là. Ça, pour raconter ce que c'est que le fameux hédonisme consumériste. Un hédonisme d'enfant, mais d'enfant privé de politique. Ah, intéressant. Parce que la politique, c'est vicieux, c'est mauvais, c'est tortueux. Regardez-les, c'est tous des escrocs, c'est bien connu. Par contre, le peuple, lui, il est vertueux. Il consomme et la police le protège. Voilà de quoi il s'agit. Et la police veillera, s'il le faut, pour protéger les entreprises qui fabriquent des bonbons Haribo pour lui et pour son bonheur. Et des jouets pour lui et pour son bonheur. Et des fringues et des baskets tous les deux mois. Et il ira même tabasser sur les Thaïlandais, s'il le faut, s'ils ne font pas bien les ballons qu'on vend dans les supermarchés. C'est ça le consumérisme hédoniste. Il y a la part lumineuse, comme au Japon d'ailleurs, exactement pareil, et puis derrière il y a la police. Et on a ce qu'on a, et ce qu'on veut aussi. Donc, c'était le mode de dépossession précédent. J'allais dire, pour rigoler encore un peu là-dessus, que si Marx a été, on peut le dire, le maître à penser du XXe siècle, Walt Disney est celui du XXIe siècle.